Il va de soi que mademoiselle n'avait pas vu venir la révolution, en quoi elle n'avait pas été plus aveugle que le reste de la cour. Lors des barricades de 1648, il y avait 4 ans que Paris grondait et s'agitait sans que le régime ni personne autour d'elle eut l'idée de s'inquiéter de ce qui se passait dans les esprits. Lors des barricades de 1648, il y avait 4 ans que Paris grondissait et s'agitait, sans que le régime ni personne autour d'elle eût l'idée de s'inquiéter de ce qui se passait dans les esprits. Dès le 1er juillet 1644, le peuple avait envahi le palais de justice en protestant bruyamment comme un nouvel impôt et le Parlement s'était chargé de porter ses doléances à la reine. Anne d'Autriche avait refusé de céder. La ville avait pris aussitôt sa physionomie de veille d'émeute. Conciliabule en plein air. Jean Affairé, sans savoir pourquoi, curieux, le nez au vent, boutiquier, sur leur pas de leur porte. Attente inquiète de quelque chose d'inconnu. Le 3e jour, la soupe au lait s'envola. Des bandes armées de gourdins descendirent des faubourgs et donnèrent, rapporte un témoin, assez de frayeur dans la ville, en laquelle telles émotions étaient inconnues. Au bout de quelques heures, les bandes se dissipèrent d'elles-mêmes et l'émeute s'évanouit. Mais le premier pas était fait. Le peuple s'était familiarisé avec l'idée de troubler la rue. À partir de ce jour, les signes avant-coureurs de l'orage se multiplièrent. Le Parlement soutenait ouvertement le peuple. Il avait des orateurs violents et magnifiques qui éclataient en discours terribles sur la misère effroyable, les injustices et l'oppression qui jetaient la France dans une sorte de désespoir. La majesté du trône ne les arrêtait plus et c'était aux séances solennelles, des lits de justice ou, dans les salons même du palais royal, en présentant les remontrances de leur corps, qu'ils prononçaient leurs philippiques les plus véhémentes. L'enfant roi les écoutait, assis à côté de sa mère. S'il ne comprenait pas toujours leurs paroles, il ne pardonnera jamais le ton dont elles étaient prononcées. La cour les considérait avec étonnement. Et mademoiselle, en ce temps-là, ne bougeait pas de la cour. Ses mémoires ne font néanmoins aucune allusion à ces révoltes de l'opinion, tant elle avait été loin d'en saisir la portée. Elle l'avait aussi peu comprise que la reine. Et c'est tout dire. Il n'y avait que 60 ans des barricades de la Ligue, il n'y en avait que 10 d'une comédie appelée Alison, où une ancienne ligueuse a pour les soldats du roi les yeux de nos communardes pour les Versaillais. Le peuple parisien n'avait jamais cessé d'entretenir ses vieilles armes, dans la pensée qu'elles resserviraient et la légende de France s'imaginait avoir paré à tout, en défendant aux Français par une ordonnance de parler politique. Un esprit nouveau montait des profondeurs de la nation. Dans les classes moyennes, où il avait déjà trouvé un apôtre. C'était un parlementaire, le président Barillon. « Il avait, dit Madame de Motteville, un peu de cette teinture de quelques hommes de notre siècle qui haïssent toujours les heureux et les puissants. Ils estiment qu'il est d'un grand cœur de n'aimer que les misérables et cela les engage insensément dans les petits partis qui sont contraires à la cour. Les temps n'étaient pas mûrs pour les haines qui balayent sous nos yeux les vieilles sociétés et le président Barillon était condamné à succomber. Tant que la reine avait été malheureuse, il lui avait été tout dévoué. Lors de son veuvage, il avait contribué à lui faire donner le pouvoir. La croyant, je ne sais sur quel fondement, acquise à ses théories sur les droits des humbles et les devoirs du gouvernement envers leur peuple. La désillusion ne se fit pas attendre et Barillon, de chagrin, se jeta dans l'opposition avancée. Anne d'Autriche était incapable de comprendre cette âme passionnée. Elle en voulut à son vieil ami et le fit enfermer à Pignerolles, où il mourut. « Regretté de tout le monde », dit encore Madame de Motteville. Le président Barillon est déjà un précurseur des idéologues du XVIIIe siècle et des socialistes du XIXe. La reine était de ceux qui ont des yeux pour ne pas voir. Rien ne put les lui ouvrir. Le roi de France avait eu sa marmite renversée. Faute d'argent pour payer les fournisseurs. Et sa mère, pour apaiser les siens, avait dû mettre en gage les diamants de la couronne. Anne d'Autriche s'indignait néanmoins contre ces bourgeois qui osaient dire la France ruinée. Non qu'elle attacha de l'importance à l'opinion du Parlement, qu'elle appelait cette canaille, avec ses idées exotiques sur notre pays, mais toute critique lui paraissait une atteinte à l'autorité de son fils. Chacune de ces injures, ajoutant à la popularité de l'opposition, celle-ci était toujours disposée à soutenir les réclamations du peuple. Les réclamations du peuple, par intérêt autant que pour sympathie. Les bourgeois étaient tous infectés de l'amour du bien public, écrit avec amertume la douce Motteville. La cour n'avait donc pas à compter sur cette canaille en cas de difficulté, ni d'ailleurs sur elle-même, trop d'ambition s'y contrarierait, trop d'injures égoïstes, sans parler de l'instinct de la conversation qui incitait les nobles à lutter une dernière fois contre l'établissement de la monarchie absolue pour sauver ce qui restait à sauver de leurs anciens privilèges. Ils auraient été dans leurs droits, car personne n'est tenu au suicide, si seulement ils avaient su comprendre que leur devoir envers le pays passe avant tout. Mais l'idée de patrie était encore bien trouble dans leur conscience les plus claires. La grande mademoiselle n'hésitait pas non plus que les autres quand les intérêts de sa maison se trouvaient opposés à ceux du royaume. Elle raconte qu'après l'affaire Saujon, elle s'était à peu près retirée de la cour. Je ne croyais pas que la présence d'une personne que la reine avait si fort maltraitée lui pût être agréable. Elle allait faire des séjours à son château de Blois, le vicomte, près de Meaux. Et ce fut là qu'on lui envoya la nouvelle de la bataille de Lens, 20 août 1648. La petite cour de mademoiselle savait que sa princesse verrait un malheur personnel dans le bonheur de nos armes. C'était de la gloire, en plus pour le prince de Condé, du crédit et de l'influence en plus. Pour cette autre branche cadette, aux prétentions insolentes dont les usurpations avaient mis entre leurs maisons une aigreur, que la mort du vieux Condé, 1646, n'avait pu adoucir. « Personne ne me l'ose à dire, continue mademoiselle. » N'ont mis sur ma table la relation qui était venue de Paris au sortir de mon lit. Je vis ce papier sur ma table. Je le lus avec beaucoup d'étonnement et de douleur. Dans cette rencontre, je me trouvais moins bonne française qu'ennemie. L'aveu est à retenir, car le crime de mademoiselle avait été celui de toute la noblesse frondeuse. Eux d'abord, la France ensuite. Elle en pleura. Son père lui avait demandé de revenir à Paris se réjouir avec la reine. Ce lui fut un redoublement de chagrin. Depuis la scène du palais royal, il lui était impossible de se réjouir avec Anne d'Autriche. Il fallut pourtant obéir et assister avec la cour le 26 août au Te Deum de Notre-Dame. Je me mis auprès du cardinal de Mazarin. Et comme il était en bonne humeur, je lui parlai de la liberté de Saujon, pour laquelle il me promit de travailler auprès de la reine, que je laissais au palais royal et m'en allais dîner. Je ne fus pas plus tôt arrivé à mon logis que me l'on vint dire la rumeur qui était dans la ville que le bourgeois prenait les armes. C'était la réponse des Parisiens à l'arrestation inattendue de leurs deux parlementaires, dont le vieux Broussel, l'homme qui incarnait, aux yeux de la Fronde, les doctrines humanitaires et démocratiques du président Barillon. Mort pour la bonne cause, la ville s'était levée en un tour de main. Le chagrin de mademoiselle se dissipa. Dans le désarroi de la monarchie, elle ne pensa qu'aux embarras où allaient se trouver la reine et monsieur. Et son plaisir fut grand. Les Tuileries étaient situées à souhait pour observer une révolution. Les boulevards n'existaient pas et la Seine était le centre du mouvement et de ses affaires. La grande rue de Paris et sa grande salle des fêtes. À plusieurs lieux, en amont et en aval, les étrangers reconnaissaient à son animation qu'ils approchaient de la capitale. Du cours La Reine à l'île Saint-Louis, elle était bordée de ports et de marchés en plein air, encombrée de barges à marchandises, de trains de bois, de bateaux de plaisance, de coches d'eau en forme de maison flottante et de toute une batterie légère qui guettait le client pour le mener à ses affaires, lui faire voir de près une joute de mariniers, un feu d'artifice, une sérénade sur l'eau, une galère dorée qui filait banderoles au vent, soulevée par 12 paires de rames. La Seine mettait une traînée de soleil à travers des petites rues obscures. Elle était la lumière et la joie de Paris, le cœur de sa vie publique. Ses bras enveloppaient Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu et l'amas d'édifices dénommé le Palais, séjour du Parlement et de la Bourse, immense bazar, dont les galeries à boutiques étaient le rendez-vous des flâneurs et des nouvellistes. Un peu au-dessous du palais, le pont neuf grouillait de marchands ambulants, de battleurs, de charlatans et de filous, de badauds regardant une parade, de pauvres diables en train de se faire arracher une dent, mettre une jambe de bois ou un œil de verre. Toutes les émotions populaires partaient de la Seine. Elle était une reine. Nous en avons fait un égout. Paris était déjà la ville cosmopolite arrangée pour les étrangers, celle qu'ils appelaient la grande hôtellerie, la seule en Europe où l'on vous meubla un palais en moins de 2 heures, où l'on vous servit en moins d'une heure un dîner de 100 couverts à 20 écus par tête. Cette puissante capitale était cependant, sous bien des rapports, dans l'état de barbarie. Elle n'était pas éclairée, pas balayée, remplie d'une boue noire et infecte. Les habitants vidaient tout par les fenêtres, à peine s'il existait une police, et la ville était semée de lieux d'asile, survivance du Moyen-Âge qui servait de retraite aux malfaiteurs. Le duc d'Angoulême, bâtard de Charles IX, envoyait ses domestiques se payer de leurs gages aux dépens des passants et les recueillait dans son hôtel. Il possédait le droit d'asile. Le duc de Beaufort envoyait les siens voler pour son propre compte. Des bourgeois, en ayant arrêté quelques-uns, il les réclama et prétendit les faire indemniser. Le caractère de la population parisienne, qui se renouvelle pourtant si vite, n'a pas changé depuis 300 ans.
« Les vrais Parisiens, »
écrivait un contemporain de Mademoiselle,
« aiment le travail, la nouveauté des choses, les changements des modes d'habits et même d'affaires. Fort pieux, crédules et point. Ivrognes civils, aux étrangers et inconnus. »
Ôtez la piété et ajoutez l'absinthe. Mère de folie, vous aurez le Parisien d'à présent. Toujours laborieux, toujours mobile, toujours crédule surtout, il traite la religion de superstition, mais il a foi au système, aux panacées, aux grands mots, aux grands hommes, vrais ou tôt. Il croit encore aux révolutions. En revanche, il est toujours prêt, comme au siècle passé, à se faire tuer pour une idée, pour un broussel, pour bien moins qu'un broussel. Ce fut ce Parisien-là, le muni que nous connaissons, qui fit les barricades de 1648. Les fenêtres de Bruxelles donnaient sur la rivière. La batellerie de la Seine, instruite la première de son arrestation, s'élança dans les rues avec de grands cris. Les halles se joignirent à la batellerie. Le bon bourgeois suivit le peuple. Les boutiques se fermèrent, les chaînes se tendirent, les rues se hérissèrent d'armes vieillottes, qui donnaient à l'émeute un faux air de cortège historique. Et mademoiselle fit atteler, elle voulait voir cela de près. Elle prit par les quais, traversa le pont Neuf et fut témoin d'un spectacle qui influa sur la suite de sa vie. Les chaînes tombaient devant elle pour se relever derrière son carrosse. La grande mademoiselle se rendit au Luxembourg et de là au Palais Royal, en princesse de légende, devant qui s'évanouissent les obstacles et les monstres. La popularité n'est jamais chose raisonnée à Paris. Les gens du peuple adoraient cette princesse autoritaire, pour qui leurs pareils n'étaient que des coquins, bons à bâtonner et à pendre. Et ils en furent récompensés, comme on l'est très souvent, en ce monde, des sentiments désintéressés. Au retour de sa promenade, mademoiselle était prisonnière de sa popularité. La cour avait commencé par ne pas prendre l'insurrection au sérieux. Il fallut y venir. Et mademoiselle trouva le palais royal en grande rumeur. Elle but des yeux les visages soucieux de ceux qui l'avaient offensée, rentra chez elle toute contente et s'amusa comme un enfant à regarder les bivouacs établis sous ses fenêtres. La nuit fut cependant paisible. Le lendemain, je fus éveillé par le tambour qui battait au champ de bonne heure pour aller prendre la tour de Nesle que quelques coquins avaient pris. Je me jetai hors du lit et courus à la fenêtre. Elle vit bientôt revenir des soldats blessés, qui lui causèrent grande pitié et frayeur. Dans la rue des Tuileries, les passants avaient tous des épées. Ils les portaient si gauchement que mademoiselle s'en amusa longtemps. Elle se trouvait bloquée dans son palais. Toutes les rues de la ville étaient barricadées, avec des tonneaux remplis de terre ou de fumier et reliés par des chaînes. Paris n'avait pas mis 3 heures à exécuter ce bel ouvrage, plus redoutable encore à titre de symbole qu'autrement. Les barricades de la Fronde, pavoisées avec les vieux drapeaux de la Ligue, font toucher du doigt la continuité du courant révolutionnaire dans la population parisienne. Res se targue d'avoir été celui qui mit le feu aux poudres. Ses mémoires grossissent son rôle, moins qu'on ne l'a dit pourtant. Il tenait réellement dans sa main le Paris pauvre. C'était le fruit de 7 années d'un travail patient. Élève très indigne de Vincent de Paul, son ancien précepteur, Reiss, avait gardé de leur commerce l'idée qu'il fallait compter avec le peuple, qu'il était quelqu'un et non quelque chose, et que l'avenir serait à qui saurait s'en servir. En conséquence, ce jeune abbé de bonne maison, coadjuteur de son oncle, l'archevêque de Paris, s'était appliqué à connaître les opinions politiques des crocheteurs et des miséreux. Il fréquentait leur grenier et y apprenait, en échange de ses aumônes, les mots qui font sortir les barricades de terre à Paris. Il recourut à cette science dangereuse dès qu'il se crut menacé du côté de la cour, trop heureux d'avoir un prétexte de jouer les Marius et les Coriolans. C'était son rêve, depuis son enfance, depuis qu'il avait lu Plutarque. C'est la grande figure romantique de ces temps, où Corneille croisait dans la rue les modèles de ses héros. Reiss était bien moins un ambitieux qu'un passionné, de l'extraordinaire et de l'éclatant. Rien ne valait à ses yeux une belle aventure. Aucune existence n'était comparable pour lui à celle du conspirateur. Aucun surnom aussi flatteur que celui de « Petit Catilina » qu'on lui donna quelquefois. Le peuple parisien s'entendait avec lui. La Rochefoucauld et Saint-Simon ont parlé avec admiration de son puissant et prodigieux génie. Mazarin, hors d'état de comprendre les héros de Plutarque, puisqu'il n'aimait ni la vertu ni le vice, craignait Reiss, sans l'admirer, et confiait à mademoiselle qu'il avait l'âme noire. Anne d'Autriche ne voyait en lui qu'un factieux et un intrigant. Les sots s'en moquaient et il y prêtait. Il était ridicule avec sa face basanée, ses jambes torses, ses maladresses de myope et son goût pour les costumes de cavalier. Les étoffes voyantes et les fanfreluches, ses allures de petit maître et ses sempiternelles aventures galantes. Mais il y a des hommes qui supportent le ridicule, et Rès était du nombre. La preuve en est qu'il plaisait aux femmes. Tandis qu'il contemplait son œuvre dans son quartier de Notre-Dame, où chacun se préparait à la bataille, les pères avec leurs mousquets, les petits-enfants avec leurs petits couteaux, mademoiselle profitait de ce que les communications étaient libres entre les Tuileries et le palais royal, pour se rendre chez la régente. Elle y était quand le Parlement vint réclamer Broussel et emporta un refus indigné. Elle y était encore quand il reparut, bien malgré lui, pour signifier à la reine, de par le peuple que Paris voulait Monsieur de Broussel. Tandis que Mathieu Moll s'expliquait avec Anne d'Autriche, un parlementaire inconnu à mademoiselle, lui parlait politique d'un ton qui lui ouvrait les yeux sur les dispositions de la magistrature française. Elle regarda sortir les longues robes, après que la reine eut promis de rendre Broussel et leur trouva un air étrangement fier. Il fut clair pour elle que tout cela n'était qu'un commencement. Les barricades disparurent le lendemain, au retour de Broussel, mais la population restait nerveuse. Il suffisait du bruit le plus absurde d'un passant criant que la régente préparait une seconde Saint-Barthélemy, ou que la reine de Suède était à Saint-Denis avec son armée pour que les mousquets partissent tout seuls dans les rues. Il s'élevait alors un grand brouhaha, et la populace se mettait à piller, puis tout s'apaisait, jusqu'à la prochaine fois. La nuit, les alertes étaient continuelles. Le 30 août, mademoiselle était allée au bal dans une maison située près de la rue Saint-Antoine. On entendit toute la soirée des coups de feu suivis de rumeurs. La reine et Mazarin auraient bien voulu être hors de Paris. Mais le palais royal était surveillé par le peuple, et l'habitude de traîner son mobilier après soi rendait bien difficile de partir, sans qu'on s'en aperçût. La cour décida cependant d'essayer. Le palais royal avait repris son train accoutumé. La surveillance des Parisiens se relâchait peu à peu. Alors, le 12 septembre avant le jour, quelques voitures de meubles filèrent du palais vers Rueil. Le 13, le petit Louis XIV était tiré de son lit de grand matin et suivait les meubles en compagnie de Mazarin. Anne d'Autriche, comme la plus vaillante, resta la dernière pour couvrir la fuite de son ministre. Elle se promenait dans Paris pour détourner l'attention. Dans l'après-midi, elle aussi disparut par la route de Rueil.